RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Ils font partie de l'histoire mythique de la Russie. Ils ont inspiré les plus grands écrivains russes, Tolstoï, Gogol, et on les croyait disparus avec la révolution bolchevique. Mais depuis quelques années, les Cosaques, puisqu'il s'agit d'eux, font leur renaissance. On les a vus parmi le dispositif de sécurité des Jeux Olympiques de Sotchi, puis en Crimée, aux côtés des forces russes, et dans le Donbass, venu soutenir les séparatistes. Mais certains étaient aussi sur le Maïdan, à Kiev, à côté des pro-européens depuis 2014. Car les Cosaques sont ukrainiens, russes, vivent traditionnellement sur les marches de l'Empire, conquérants et gardiens des frontières. Mais depuis leur renaissance au début des années 90, ils cherchent aussi à conquérir les sphères du pouvoir. Entre folklore et conservatisme politique, le renouveau des Cosaques, c'est un grand reportage de Muriel Pomponne, Muriel que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage.
Lors des Jeux Olympiques de Sotchi, ils avaient presque autant de succès auprès des touristes que les athlètes. Avec leur toque d'astrakhan, la papara, et leur long manteau de feutre, la tcherkessa, les Cosaques se laissaient volontiers prendre en photo. Les Cosaques aiment cultiver la tradition, mais revendiquent aussi leur place dans le monde moderne. Nous rencontrons l'un de leurs chefs, l'ataman Vladislav Ivanovitch Lavrenenko. Il nous accueille dans son bureau à Sotchi.
Notre société est une société démocratique, donc l'ataman est élu parmi les Cosaques. On choisit le plus respecté, celui qui a le plus d'expérience. Alors évidemment, il a une grande responsabilité. Un ataman, c'est quelqu'un qui a de l'autorité sur les Cosaques. Il est leur responsable. L'ataman est élu tous les 5 ans. Et moi, ça fait 15 ans que je suis ataman. On m'a réélu 3 fois. Ça veut dire qu'on me fait confiance. Et mon rôle, c'est d'organiser cette société.
L'ataman sort une vieille photo de famille, son petit-fils sur les genoux.
Je suis Cosaque de naissance. On est Cosaque depuis 7 générations. Mon grand-père a été exécuté et mon père a subi des répressions. Il existe donc des Cosaques de naissance qui sont fidèles à leurs ancêtres. Mais 60 à 70% des Cosaques sont des Russes qui viennent chez nous parce qu'ils le souhaitent. On n'accepte que les Russes, pas les gens d'autres nationalités, car ils ont leur propre organisation. Alors qu'est-ce qu'il faut pour devenir Cosaque? Eh bien, être orthodoxe et respecter les lois des Cosaques. Le candidat passe devant un conseil de vieux Cosaques qui examinera sa demande. Ensuite, il y a une période d'essai, si vous voulez. Et après cette période, il est officiellement intronisé comme Cosaque. Ça se passe lors d'une cérémonie particulière à l'église. Et c'est là qu'il fait sa promesse devant ses frères Cosaques et le drapeau Cosaque. Ensuite, il embrasse une croix et une icône et prononce son serment.
Les rites, le costume, les attributs du pouvoir sont très importants.
Les toques, on les appelle les paparas, et les longs manteaux sont les tcherkeska. Ceux qui portent les paparas blanches et les tcherkeska rouges appartiennent à un régiment de gardes d'apparat. Mais nous, nos soldats, ils sont tous en noir avec des manteaux noirs et des paparas noirs. Ils n'ont pas de blanc. Cet objet, c'est une cartouchière pour mettre les balles. Je l'ai hérité de mon grand-père. Et ça, c'est un poignard. Et ça, une shashka, autrement dit, un sabre. Chaque régiment de Cosaques a ses propres symboles. Et l'ataman possède un boulava. C'est un bâton de commandement. Il ne doit jamais s'en séparer. Là, c'est le drapeau orthodoxe que les nouveaux Cosaques doivent embrasser et devant lequel ils font leur serment. Et celui-là, c'est le drapeau de notre régiment que nous portons lors de tous les événements importants.
Mais aujourd'hui, à quoi sert un Cosaque? À Sotchi, ils ont épaulé les forces de l'ordre.
Les Cosaques surveillent la frontière. Ici, nous nous trouvons au point le plus au sud de la Russie. C'est la frontière avec l'Abkhazie et les autres frontières des républiques russes du Caucase. Ensemble, avec les gardes-frontières, nous faisons des patrouilles. Nous sommes présents sur les miradors. Évidemment, avec les Jeux Olympiques, on a eu plus de responsabilités. On a fait encore plus attention. À part ça, nous avons des brigades environnementales. On surveille notre nature, que les gens ne coupent pas le bois ou creusent les berges des rivières. Et on a aussi des équipes de lutte contre la drogue. Ce sont des équipes mobiles. Enfin, nous avons des brigades de contrôle routier. Et tout ce travail, eh bien, nous le faisons gratuitement. On n'est pas rémunéré pour ça. On est tous volontaires.
Les Cosaques sont originaires du Caucase et de l'Ukraine. Ils se considèrent comme une nation. Sous l'Empire, ils surveillaient la frontière avec le Caucase. Depuis Catherine II, qui à la fin du XVIIIe siècle leur a donné des terres, il existait un accord tacite entre les Cosaques et le Tsar. Dmitri Nenarokov est prêtre, historien et Cosaque à Moscou.
Quand l'Empire russe s'est formé, les tsars russes étaient intéressés par la présence près des frontières de professionnels avec une connaissance innée de l'art militaire. Ces gens gardaient eux-mêmes leur territoire. Ils n'ont jamais été soumis et n'ont jamais payé d'impôts. Ils étaient libérés de toutes les obligations à l'égard de l'État, sauf le service militaire.
Après la révolution d'octobre, la plupart des Cosaques ont rejeté le régime des bolcheviks et ont rejoint les contre-révolutionnaires.
Parce que les Cosaques étaient des gens profondément croyants qui respectaient les traditions, ils ne pouvaient pas accepter la folie de ces périodes révolutionnaires en Russie. Les Cosaques ont donc organisé plusieurs révoltes dès le début de la période soviétique. Les dernières révoltes ont été réprimées à la fin des années 30. C'est une réalité peu connue, mais dans la partie centrale de la Russie, d'importants groupes de résistants armés ont existé jusqu'au début de la guerre, en 1941.
Et pendant la Seconde Guerre mondiale, certains se sont ralliés aux Allemands.
Officiellement, 50 000 Cosaques ont rejoint l'armée allemande. Les Cosaques qui ont participé au conflit côté allemand cherchaient en fait à poursuivre ainsi la guerre civile. Ils ne partageaient pas les idées politiques d'Hitler. Ils voulaient entrer en Russie avec l'Allemagne et remettre de l'ordre dans le pays, c'est-à-dire d'abord vaincre les bolcheviks et ensuite vaincre Hitler.
Cela leur a valu d'être massivement déportés par le régime de Staline.
En fait, les Cosaques ont été dépossédés de tous leurs biens et ont perdu leur statut. Les Cosaques, qui n'ont pas été fusillés, n'ont pas été envoyés dans les camps, ont été déplacés en Sibérie et en Extrême-Orient. Ce n'était pas une déportation, c'était plutôt un exil.
Les Cosaques ont été réhabilités par la loi du 26 avril 1991, comme les autres minorités persécutées pendant l'Union soviétique. Depuis, une collaboration s'installe peu à peu entre les Cosaques et les forces de l'ordre russes. Mais elle est très variable en fonction des régions. Dans le sud, à Kouban, les Cosaques sont même rémunérés par la région. Le journaliste Vladislav Maltsev a mené une enquête sur les Cosaques de Moscou. Il constate que leur influence est grandissante dans l'administration.
C'est surtout lié au fait que le préfet du district sud-est de Moscou, Vladimir Zotov, qui est préfet depuis 1991, est lui-même un Cosaque. Il est né dans un village de Cosaques qui s'appelle Kouchevskaya, dans la région de Krasnodar. C'est un Cosaque ethnique. Il est le conseiller de l'ataman de l'armée Cosaque. Quand je regarde de près les administrations des différents districts de Moscou, j'ai l'impression que de nombreux fonctionnaires, responsables de districts, députés, adjoints de préfets, ont des liens avec les Cosaques. Certains d'entre eux sont colonels dans l'armée Cosaque, d'autres conseillers ou anciens atamans des Cosaques. C'est un réseau d'influence qui équivaut à celui du parti de Poutine, Russie Unie.
Pour lui, les Cosaques sont plus conservateurs que nationalistes.
En Russie, il y a plusieurs sortes de nationalisme. Il y a un nationalisme venu de l'Occident avec une reprise des mêmes symboles, mais c'est marginal. Ici, il existe surtout des gens qui croient qu'il faut lutter contre la culture décadente de l'Occident et contre le développement de l'athéisme ou l'homosexualité. Ces gens sont favorables à un rôle accru de l'Église. On appelle ça le conservatisme, mais c'est une autre forme de nationalisme. Les Cosaques ne constituent pas l'avant-garde de ce nationalisme, mais ils jouent un rôle important. Par exemple, les Cosaques protègent les églises. Ça a commencé en 2012, après l'affaire des Pussy Riots. Ils le font vraiment. Souvent, on voit des Cosaques à côté des églises. Ils sont généralement trois en uniforme bleu. C'est l'uniforme de l'armée centrale des Cosaques.
Les Cosaques sont historiquement des défenseurs de la foi orthodoxe, comme l'expliquait Léna, responsable du musée de l'école Cosaque de Sotchi.
Les Cosaques sont des gens croyants, ils sont très religieux. Comment on dit déjà? Ah oui, un Cosaque sans foi n'est pas un Cosaque. Nous avons ici beaucoup d'objets en lien avec la religion. Là, il y a un évangile du 19e siècle. Nous avons aussi une maquette d'une église qui se trouve dans notre ville et qui est consacrée à Saint-André. Nous avons construit cette maquette pour montrer le lien entre les Cosaques et la foi orthodoxe. Ensemble avec les enfants, nous avons accueilli le métropolite qui est venu dans l'école. Et dans toutes les classes, il y a un cours de religion orthodoxe. Chez nous, la foi orthodoxe est très, très respectée.
Sous l'Empire, les Cosaques ont été accusés d'être responsables de nombreux pogroms. Une réalité que Dmitri Nenarokov cherche à minimiser.
En ce qui concerne les pogroms, c'était une provocation dont le but était d'affaiblir les bases morales de l'Empire russe. Tout d'abord, le rôle des Cosaques est exagéré. Et puis en réalité, une seule fois, les Cosaques ont été utilisés comme des gendarmes. C'était en 1905. Et après ça, ils ont catégoriquement refusé de participer à ce genre de choses. Les Cosaques n'ont jamais fait la guerre contre les peuples de l'Empire russe. Je me demande même si cette question des relations entre les Cosaques et les autres nationalités est légitime, parce qu'à l'époque, les Juifs se regroupaient dans des villages plutôt aux frontières de l'Empire, et en général, personne ne les touchait. Les Cosaques, ce sont des militaires. Et pour un militaire, se battre contre un civil, c'est humiliant.
Il y a plus de relations avec les musulmans que les Cosaques côtoient dans le Caucase en raison des mariages avec les femmes musulmanes. En mars, on a vu des Cosaques en Crimée aux côtés des pro-russes lors de l'annexion. Une présence revendiquée par Dmitri Nenarokov.
Les Cosaques protègent depuis toujours leurs valeurs traditionnelles. Ainsi, il y a en ce moment une guerre non déclarée contre notre Église orthodoxe, déclenchée par certains partis libéraux. C'est le mouvement Femen, les croix qu'on fait tomber. Alors nous protégeons les croix et les églises des blasphèmes. Ce sont mes valeurs. Les Cosaques sont pour les familles solides, avec beaucoup d'enfants. Ce sont aussi les convictions des orthodoxes. Actuellement, les Cosaques commencent à s'organiser eux-mêmes. Ils n'attendent pas d'ordre, mais agissent eux-mêmes en fonction de leurs convictions. Par exemple, les événements en Crimée ont montré la haute réactivité des Cosaques. 5000 Cosaques russes se sont rendus sur le territoire de Crimée. Ils se sont infiltrés dans la péninsule et ils ont pris part à la résistance. D'ailleurs, les habitants locaux les ont très bien accueillis. Ils les ont nourris, logés, leur ont donné des vêtements et ils demandaient aux Cosaques de ne pas partir.
D'autres Cosaques ont fait le coup de feu dans le sud-est de l'Ukraine, à Donetsk, à Lugansk. Ordre et tradition séduisent. L'école cosaque de Sotchi, qui accueille les enfants de 7 ans jusqu'à la fin de leurs études secondaires, est en plein essor, comme l'explique son directeur, Vladimir Vladimirovitch Davidov.
Depuis les travaux de rénovation en 2008, l'école connaît un grand succès. Aujourd'hui, il y a deux candidats pour une place. Pourquoi l'école est-elle tellement populaire? D'abord, il y a la discipline. Une très bonne équipe éducative, et puis nous organisons aussi beaucoup de voyages à l'intérieur du pays et à l'étranger. Les enfants ont déjà visité l'Italie et l'Allemagne. On essaie en fait de créer toutes les conditions pour la renaissance de la culture cosaque. Et bien sûr, le financement des écoles cosaques s'est amélioré. Dans notre école, il y a 1300 élèves, 40 classes, moitié cosaque, moitié pas cosaque. Dans les classes cosaques, il n'y a pas que des enfants issus de familles cosaques, il y a aussi des enfants d'autres nationalités, quand les parents font la demande. Ce sont surtout ceux qui destinent leurs enfants à une carrière militaire. En plus, pour faire renaître les traditions cosaques, l'ataman de Kouban a introduit un système de primes. Les enfants obtiennent des insignes d'excellence. Denis, viens ici, s'il te plaît. Montre ta décoration. C'est un insigne très prestigieux. Nous avons déjà 10 élèves qui en ont été décorés. Cet insigne montre qu'il est un excellent élève, mais pas seulement. Il a aussi fait des recherches sur la culture cosaque en interrogeant ses proches qui avaient participé à la Seconde Guerre mondiale.
Denis est le meilleur élève.
Bonjour, je m'appelle Denis. Cette école me plaît car il y a des classes cosaques. C'est intéressant pour les garçons parce qu'on apprend le tir. Des cosaques travaillent avec nous, ils nous enseignent l'escrime et les arts martiaux. Être cosaque, ça signifie aimer sa patrie, connaître ses ancêtres et défendre sa famille si nécessaire.
Tatiana est la meilleure élève.
Nous aussi, nous faisons du tir, nous faisons de l'escrime. Chaque année, avec notre classe, nous participons aux compétitions de tir. Certaines de mes camarades de classe ont même des médailles. Moi, j'en ai pas, j'ai pas réussi. Je suis pas assez précise en tir.
Et cette maman explique pourquoi elle a choisi une école cosaque pour sa fille, dont le destin est tout tracé.
D'abord, parce que nous vivons à Kouban. Et quand l'enfant est élevé dans les traditions et la culture de son peuple, c'est une bonne chose, parce que l'enfant doit connaître son histoire. Nous, nous sommes cosaques. D'ailleurs, notre nom de famille, c'est Kosakov. De manière générale, le père, c'est le chef de la famille. Et la femme, quoi qu'il arrive, elle s'occupe de tout à la maison. Elle élève les enfants, elle s'occupe du foyer. Mais c'est toujours l'homme qui est le chef de famille, et c'est lui qui doit rapporter l'argent à la maison.
Les Cosaques, un grand reportage de Muriel Pomponne, réalisation Marc Minatel.
Muriel Pomponne, bonjour.
Bonjour Laurent.
Alors, vous parlez du nouveau Cosaque après presque un siècle de disparition, mais combien sont-ils actuellement ces Cosaques ?
Eh bien, d'après les chiffres donnés par le président du Conseil présidentiel pour les Cosaques, 7 millions de Russes se revendiquent Cosaques. Et 700 000 seraient affiliés à des associations militaires Cosaques. Alors, il y a aussi des Cosaques en Ukraine où le mouvement connaît le même phénomène de renouveau. Et là, il serait environ 2 millions se revendiquant de nationalité cosaque.
Muriel, vous parlez de nationalité cosaque. Existe-t-il vraiment une nation cosaque ?
Certains cosaques revendiquent effectivement l'appartenance à une nation. Et ils défendent même l'idée d'un territoire dans les plaines du Nord-Caucase, à l'extrême sud de la Russie. C'est un peu paradoxal pour plusieurs raisons. Historiquement, les cosaques sont sans doute apparus vers le XIVe siècle dans les steppes du sud de l'actuelle Russie, après le départ des Mongols. Leurs racines plongent donc dans les ethnies venues de l'Est, mais aussi d'Asie mineure. Ce serait donc plutôt des Turco-Mongols qui se seraient slavisés, si je puis me permettre l'expression, au fil du temps et de leur contact avec les peuples qui vivaient notamment dans l'actuelle Ukraine. Ils ont donc des origines très métissées. Les Cosaques étaient donc des nomades de la steppe qui ne semblent pas avoir eu de territoire défini. De ce nomadisme, ils ont gardé la liberté, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été mis en servage quand les paysans russes appartenaient comme des esclaves aux nobles. Le terme « cosaque » serait d'ailleurs dérivé d'un mot turco-mongol signifiant « homme libre ». Alors aujourd'hui, on peut se dire « cosaque » de naissance, mais on peut aussi le devenir. On peut aussi être issu d'une famille de cosaques et ne pas se sentir cosaque.
Alors cette question très simple, Muriel, est-ce que les cosaques sont des militaires ?
Historiquement, à partir d'Ivan le Terrible au XVIe siècle, puis lors de la conquête de la Crimée sous l'impératrice Catherine II, les Cosaques ont passé une sorte d'accord avec l'Empire. L'Empire leur permettait de rester des hommes libres et en échange, ils se mettaient au service du tsar pour garder les frontières. Ils ont aussi participé aux conquêtes à l'Est. Ainsi, les Cosaques sont les premiers Russes à être arrivés au bord du lac Baïkal en Sibérie. Donc, les Cosaques étaient des sortes de paysans guerriers. Et avec cet accord tacite, ils ont eu un rôle de soldats de l'Empire sans appartenir aux armées de l'Empire. Alors aujourd'hui, l'armée russe compte un régiment de Cosaques et dans deux régions, ils sont payés pour des missions de maintien de l'ordre sans avoir d'armes à feu. Mais ce n'est pas le cas à Moscou, par exemple. Alors parfois, au nom de leur foi orthodoxe ou de leur morale, ils s'érigent en justiciers et paradent, par exemple, devant les églises. Or, ils n'ont aucune mission pour cela, mais le pouvoir les laisse généralement faire. Et certains d'entre eux revendiquent un véritable statut proche de celui des militaires, ce qu'ils ne sont pas actuellement.
Sont-ils bien vus seulement par le pouvoir central ?
Eh bien, effectivement, ils sont plutôt bien vus. Vladimir Poutine prend part à certaines de leurs cérémonies. Il leur a accordé un statut vague, mais qui leur confère une existence légale. Certaines de leurs écoles sont financées par l'État. Et puis, les Cosaques correspondent à l'idée qu'a Vladimir Poutine du patriotisme, basé sur la tradition et l'Église orthodoxe. Et les Cosaques, de leur côté, trouvent en Vladimir Poutine un chef qui correspond à leur idéal de virilité, d'autorité. Donc, pour l'instant, chacun y trouve son compte.
Ce sera le mot de la fin. Grand reportage, bien sûr, à réécouter sur RFI.fr. Muriel Pomponne, merci beaucoup. Bonne journée à Moscou.